Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ah, avril et ses records de chaleur, qu'est-ce qui nous attend encore ce mois-ci? Alors, on est là pour parler des news du cloud et du DevOps du moment, notamment des news de Grafana, d'Amazon Web Services qui perd des parts de marché, encore un produit qui n'est plus libre et une backdoor dont l'open source s'appromet. Tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans ton émission de veille cloud et DevOps mensuelle qui se nomme Actu DevOps. Alors, comme d'habitude, tu as à la fin de l'épisode notre sélection d'outils. Alors, avec moi pour parler Actu ce soir, j'ai la team historique, notamment avec Erwan. Bonsoir Erwan.
Bonsoir.
Et Damir, bonsoir Damir.
Bonsoir ou bonjour à vous.
Eh ben, ce sera en fonction de l'heure à laquelle notre auditeur et notre auditrice écoutent le podcast. On va commencer par la traditionnelle courrier des auditeurs et auditrices. Alors, j'aimerais vous lire un message de Moussine. Moussine, il m'a laissé un message sur question.compagnon-devops.fr. C'est la plateforme pour suggérer des sujets à traiter. Et il me demande... Est-ce que c'est mieux de faire un bootcamp ou une alternance? Car en ce moment, j'ai le choix de faire une alternance de 1 an et 6 mois ou un bootcamp de 6 semaines. Et je ne sais pas si le bootcamp n'est pas suffisant. Il ne donne que le nécessaire, les bases pour continuer d'apprendre et de travailler. Donc je vais faire une réponse rapide et puis je vais laisser mes chers collègues continuer. Donc moi j'ai envie de dire ça dépend vraiment de tes objectifs parce que le bootcamp c'est hyper court, 6 semaines en plus c'est vraiment très très court. Ça va te permettre de découvrir des choses mais tu n'auras pas d'expérience. Ça veut dire que honnêtement tu seras pas ou peu employable, ou alors ça dépend de ton niveau, parce que t'es peut-être déjà administrateur système et tu fais un bootcamp pour te spécialiser dans le cloud et dans le DevOps, je sais pas, peut-être. À titre personnel, j'aurais plutôt tendance à te conseiller une alternance si tu veux avoir de l'expérience et un peu plus de connaissances, surtout que tu vas avoir des vrais sujets et des cas concrets en entreprise. Alors moi j'ai déjà employé des gens et en tant qu'employeur, je prendrais pas de personnes qui sortent bootcamp parce que en fait la personne elle est vraiment pas efficace ou alors je l'embauche au SMIC et je la forme. Mais sauf que la formation elle va durer longtemps, elle va me prendre du temps. Par contre en effet au bout d'un moment, quand la formation est terminée, son salaire va augmenter. Mais pour une structure comme la nôtre, alors je prends notre exemple où on est 5. Clairement, honnêtement, on n'a pas les moyens d'embaucher quelqu'un qui sort de bootcamp. On a plus les moyens d'embaucher de quelqu'un qui sort d'alternance puis de le pérenniser pour la suite. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. On a maintenant 2 salariés qui viennent d'alternance. Donc moi, je ne saurais que te conseiller de regarder l'alternance pour aller plus loin, plus vite et puis pour apprendre des choses de la vraie vie en fait. Ça me fait penser aussi qu'on a déjà fait un podcast sur le sujet des formations accélérées DevOps. Ça s'appelle Apprendre le DevOps rapidement en 6 mois. C'est Radio DevOps numéro 19. Donc, si tu es sur YouTube, il y a un petit qui s'affiche, je sais plus où, quelque part par là. Et là, je vais donner la parole à Erwan, qui va nous dire ce qu'il en pense, lui.
Moi, j'ai pas trop d'avis très tranché sur la question, mais c'est vrai que naturellement, j'ai l'impression que si tu sais déjà ce que tu veux faire, l'alternance c'est peut-être un peu mieux parce que ça, c'est le bootcamp. Je vois surtout ça comme une ouverture de chakra. Alors peut-être à tort, hein, Mais j'ai l'impression que l'alternance, c'est plus engageant, c'est quelque chose qui va probablement amener un peu plus loin, mais c'est aussi beaucoup plus long. Donc si le temps n'est pas trop un sujet et que la personne est assez convaincue de son choix, moi j'ai le sentiment que l'alternance, c'est la meilleure alternative. Mais bon. Et toi, Damien?
Moi j'ai peur d'être un peu trop violent. Du coup, vu le marché actuel, honnêtement, moi, tout ce qui est bootcamp et tout ça, c'est vraiment compliqué de trouver quelque chose où s'insérer après directement. Donc on finit forcément par refaire derrière une alternance ou quelque chose dans le genre. Je conseille vraiment de faire une alternance. Hein. Le marché aujourd'hui junior est très 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 compliqué. Il y a énormément de personnes, beaucoup de personnes justement issues de bootcamp, etc., qui sont pas, comme disait Christophe, employables directement. Donc soit tu as un peu de chance et tu finis par aller dans une grande boîte ou une ESN qui va te vendre à gauche à droite et tu vas pouvoir te faire un peu tes armes pour après trouver quelque chose de vraiment intéressant. Soit tu as moins de chance et tu vas galérer plusieurs années. Donc vraiment l'alternance c'est plus long, mais c'est là où tu auras une meilleure employabilité, c'est là aussi où tu vas pouvoir avoir des postes plus intéressants, potentiellement du coup mieux rémunérés le plus rapidement. Moi j'ai fait typiquement j'ai fait 5 ans d'études. Sur mes 5 ans d'études, j'ai fait 3 ans d'alternance, 3 ans et demi d'alternance, donc je saurais que conseiller ça.
Ouais, moi je suis issu d'un BTS, donc j'ai fait que 2 ans d'études. J'aurais voulu faire une alternance, mais à l'époque c'était pas trop le cas. J'ai pas réussi à trouver une boîte en fait. Je pense honnêtement que l'alternance c'est la voie royale pour apprendre des choses, parce que et t'as l'apport théorique et t'as l'apport pratique qui viennent de ta boîte. Comme le disait Damir, tu es employable à un salaire plus important après une alternance, puisque tu as en plus un vrai diplôme. Vraiment, le bootcamp, c'est pour découvrir. Alors, si tu es en reconversion, le bootcamp, c'est la voie royale pour savoir, ça va te prendre 6 semaines, est-ce que c'est bien pour moi? Et puis après, tu fais une alternance. Mais honnêtement, faire un bootcamp et espérer être employé, ça me paraît un peu illusoire.
Et puis tu verras qu'il va te manquer plein de choses, mine de rien, théoriques qu'on oublie, hein. Et ce qui fait souvent la différence, on va dire, entre quelqu'un qui va monter vite en XP et quelqu'un moins vite, c'est toutes les connaissances théoriques sur les patterns de développement, sur les règles de développement, sur le bon fonctionnement des choses. C'est des choses en bootcamp que t'as pas forcément le temps de voir ou de creuser, donc tu te retrouves vite perdu et à devoir rattraper tout ça, ce qui est compliqué.
Exactement. C'est vraiment compliqué. Si tu nous écoutes et que tu as envie de nous laisser un message, tu peux le faire de plusieurs manières. Tu peux aller sur Apple Podcast ou Podcast Addict ou même YouTube et tu peux laisser un commentaire. Je vais chercher tous les mois un petit message. Tu peux aussi aller bien sûr sur le forum, laisser un message sur le forum des compagnons puisqu'il y a un post à chaque nouveau podcast qui sort. Et sinon, tu peux faire comme Moussine et laisser un message ou une question sur question.compagnon-devops.fr. De toute façon, tu trouves le lien en description. Alors, la première news, c'est moi qui m'y colle et je vais vous parler des nouveautés de chez Grafana. Alors, la GrafanaCon vient de se terminer et elle a sorti tout son lot d'annonces avec notamment 2 versions majeures et un nouveau produit. Alors on ouvre le bal avec le produit phare qui est Grafana. Grafana, pour ceux qui connaissent pas, c'est une solution de visualisation et de tableau de bord pour tout type de données. Alors on l'utilise habituellement dans nos métiers d'ops pour les métriques, les logs et les alertes, mais pas que. On peut y mettre des données business par exemple. Donc la version 11, qui est la nouvelle version, ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités comme les Explore Metrics qui permettent de naviguer dans les métriques Prometheus sans faire de requêtes. Alors si comme moi, tu t'es déjà perdu dans les requêtes, tu vas adorer. Parce que honnêtement, les requêtes Prometheus, quand on n'a pas trop l'habitude, c'est dur de naviguer. Alors ça va simplifier la vie des utilisateurs et nous permettre de trouver les causes d'un problème plus facilement, si on n'a pas déjà nos requêtes toutes faites, hein, évidemment. Il y a Explore Logs, c'est pareil, mais pour les journaux remontés par Loki, et on en parle juste après. Et on a aussi droit à des visualisations améliorées, des alertes plus simples, et 11 nouvelles sources de données et l'intégration avec TNT, j'ai nommé Tempo et Trace. Vient ensuite Loki. Loki, c'est un outil pour la centralisation des logs. Et Loki sort en version 3. Et cette version 3, elle introduit les filtres Bloom. Les filtres Bloom qui permettent de faire des filtres sur les chaînes de caractères. Cette nouvelle version, elle inclut aussi une prise en charge native d'OpenTelemetry. Tu vas le voir, le nouveau produit est basé sur OpenTelemetry. Enfin, Grafana a annoncé son nouveau produit, Alloy. Alloy, c'est une distribution open source d'OpenTelemetry Collector. Il intègre des pipelines Prometheus, mais aussi une prise en charge des métriques, des journaux, des traces et des profils. Alors comme je suis pas un spécialiste de la supervision, tu l'auras compris, je me suis demandé à quoi ça pouvait bien servir tout ça. Alors voilà ce que j'ai compris de ce que faisait Grafana Alloy. Donc tu peux utiliser Grafana Alloy pour récupérer et collecter les données de plus de 120 composants de télémétrie à partir d'applications de bases de données ou de collecteurs OpenTelemetry. Ensuite, il traite les données et les transforme pour les envoyer dans des bases de données de supervision. Et là, il écrit les données dans ces fameuses bases de données, ou alors il peut les envoyer vers d'autres collecteurs compatibles OpenTelemetry. Alors, tout de suite, ça s'est éclairé dans mon esprit, j'ai compris que c'était le successeur de Grafana Agent. C'est d'ailleurs ce qu'ils disent sur leur site internet. Donc, je te mets en description je te mets dans les notes de l'épisode la vidéo de la keynote et tout un tas d'articles sur ces sorties. Et donc, ça va être le moment pour moi de demander à mes chers collègues si déjà ils utilisent la suite Grafana, qu'est-ce qu'ils en pensent, et s'ils s'étaient intéressés justement à la Grafana Con et toutes ces sorties. Damir, qu'en dis-tu?
C'est un produit qu'on utilise beaucoup. D'ailleurs, t'en parlais de notamment visualiser des métriques business. Bah nous, notamment, c'est ce qu'on fait. Typiquement, on a tout qui est monitoré dessus, donc y compris le chiffre d'affaires, les dépenses, etc. Donc c'est un outil qui est vachement flexible et intéressant. Et pour le coup, on utilise aussi ce qui va avec. Hein, pour l'instant, du Loki, même si Quickquit semble une bonne alternative. Je reparlerai dans les outils possiblement. Et autrement, le Grafana Agent, on l'avait testé, mais on ne l'avait pas utilisé parce qu'il était assez limité. Et on a vu 2-3 petits soucis avec, donc on s'était un peu éloigné de ça. Mais pour le coup, ouais, dans Grafana, autrement, on aime plutôt bien. Même si au niveau, on va dire, de l'authentification et du SSO, il nous fait quelques blagounettes qui sont un peu chiantes. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et j'avais pas encore eu le temps, du coup, de faire le tour de tout ce qu'ils avaient annoncé. Ils ont annoncé des produits du coup sur tout ce qui est du coup OpenTelemetry. Et je pense qu'OpenTelemetry aujourd'hui c'est un des gros enjeux. Hein. On a eu une première phase, on va dire, d'observabilité où les gens ont commencé à remonter les métriques, ce qui est déjà bien et ce qui est pas toujours le cas. Et ensuite on a rajouté les logs du coup, notamment avec Loki, etc. Même si je trouve que niveau perf c'est un peu compliqué. Et après tout ça, maintenant on passe du coup sur la brique OpenTelemetry qui, à mon sens, c'est celle qui peut apporter le plus de choses aujourd'hui. Donc je suis pressé de voir ce que ça va donner, comment ça va être de plus en plus intégré, en espérant que ça prenne, notamment avec tous ces nouveaux produits. Donc à tester.
Moi, j'ai pas trop. J'utilise aussi Grafana, mais comme je viens du milieu de la stack ELK, j'ai quelques vieilles habitudes, donc qui sont un petit peu en opposition avec Grafana. Mais par contre, je suis d'accord pour rebondir sur OpenTelemetry. Moi, je trouve ça ouf toutes les annonces qu'il y a autour de ça. On sent qu'il y a, enfin que ça pousse vraiment et surtout il y a clairement un engouement de la communauté autour. C'est fou le nombre de, enfin si on n'y connaît rien, le nombre de tutos de d'outils pour facilement déployer etc. qui sont mis à disposition. En tout cas Grafana, ils ont réussi à créer une traction autour de ces sujets qui existait pas avant. Et ça, c'est quand même hyper, hyper stimulant, même si, moi, aujourd'hui, j'avoue que c'est pas encore des trucs que j'utilise full au quotidien, mais que je garde toujours du coin de l'œil.
Alors, chez nous, on n'est pas des utilisateurs avancés comme Damir, on est plutôt des utilisateurs casuals de Grafana et toute la stack. On utilisait Grafana Agent parce que ça suffisait largement pour nos besoins. Et j'avoue que je pense qu'on va se pencher sur Alloy et les nouvelles fonctionnalités de Grafana. J'espère que ça va arriver très vite dans Cockpit, puisque nous on utilise Cockpit qui est la version info gérée par Scaleway. Donc j'espère que Scaleway va mettre à jour son Grafana très vite. Je me pose la question en vous écoutant, est-ce que justement on va pas vers une sorte de standardisation et d'industrialisation justement du marché de la supervision, et est-ce que les autres produits vont suivre à votre avis? Est-ce que justement les Erwan, tu parlais de la suite ELK, est-ce que c'est compatible OpenTelemetry, et est-ce que justement c'est pas un bien pour tout le monde en fait?
Excuse-moi, rapidement, je pense que le standard, clairement, il est là. Typiquement, le scrap de métriques qui sont exposées pour Prometheus, etc., c'est devenu un standard. T'as très peu de services qui n'offrent pas cette possibilité. Ou du moins qui facilite ce type d'intégration. Donc j'ai l'impression que tout va pour là-dessus. Et après l'intégration, la compatibilité, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a pas de souci pour avoir exactement les mêmes choses sur une stack ELK. Damien, pardon, je t'ai coupé.
Non, mais c'est moi. Je suis globalement d'accord avec toi. Même si je dirais le fait d'aller scraper des métriques, c'est pas forcément un standard, on peut push aussi, mais dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt team push les métriques ou pull les métriques, ça sera toujours intéressant. Mais autrement, non, c'est clairement devenu un standard, hein. Datadog le supporte depuis un petit bout de temps, plein de produits payants supportent et fermés supportent ces standards ouverts, c'est une bonne chose et il faut y aller. Et si ça permet de faire gagner, on va dire, un peu de visibilité sur l'observabilité, gagner en visibilité tous ces outils-là sur l'observabilité qui sont super importants et qui sont des fois pas assez mis en avant, ça pourrait être top, quoi. Bah, typiquement, quand je vois le nombre de personnes qui ont pas d'APM ou rien et qui ont des problèmes et qui ont beaucoup de mal à les identifier, je me dis que c'est dommage que ce soit aussi un des parents pauvres.
Ouais, c'est parce que souvent la supervision, elle est pensée à la fin. Alors, je parle même pas de la centralisation des logs parce que on a déjà tellement de trucs à mettre en place, et si justement l'installation de ces outils devient de plus en plus facilitée, notamment je pense à Grafana Alloy, qui à mon avis va permettre de faire pas mal de choses, et ça ne peut que encourager les gens à utiliser ce genre de choses. Nous d'ailleurs on utilise Cockpit parce qu'on n'a pas à gérer le Grafana, c'est Scaleway qui le fait pour nous, et nous on a juste à gérer l'agent qui envoie les métriques. Donc plus ce sera facile à installer et à configurer, et plus les gens l'utiliseront, je pense. Eh bien, si on a fini, je vous propose qu'on avance pour la suite. Alors, la suite, c'est la place du sponsor du mois. T'as pris l'habitude, chaque mois, il y a un sponsor. Ce mois-ci, je vais te parler de ma nouvelle offre, puisque pour l'instant, c'est encore moi qui sponsorise le podcast. Donc, la nouvelle offre, c'est l'Académie Frogit. Alors, la transmission, c'est mon dada, et je cherchais à améliorer tous nos services autour de GitLab, puisqu'avec Frogit, on veut vraiment se spécialiser autour de GitLab. J'ai donc imaginé l'Académie Frogit, qui permet justement de maximiser l'efficacité des équipes techniques en dynamisant leur maîtrise de GitLab avec une académie en ligne. Alors, si tu crées du code avec GitLab que tu as à apprendre ou à utiliser plus rapidement pour être plus productif cet outil, si tu commences simplement à utiliser GitLab ou que tu veuilles te perfectionner, écoute bien parce que ça pourrait t'intéresser. Alors, dans l'offre Académie Frogit, il y a trois plans. Le premier plan, c'est GitLab Mentor as a Service, où tu poses tes questions sur un forum et tu votes pour celle qui t'intéresse, puis chaque mois il y a un mentor qui va dédier une heure à répondre en vidéo aux questions qui ont reçu le plus de votes. Le deuxième plan, c'est l'école GitLab pour te former en autonomie et à ton rythme, puisque chaque mois tu vas recevoir un module vidéo de notre formation continue GitLab avec des exemples concrets, des cas d'usage et un exercice pour t'entraîner. Et en bonus de ce plan-là, tu auras le plan précédent, GitLab Mentor as a Service, mais aussi un abonnement mensuel, tout compris à Frogit. Et enfin, le plan le plus élevé, c'est l'accélérateur GitLab, je t'en ai déjà parlé, ça permet d'accélérer ton apprentissage grâce à un mentor qui va te partager sa recherche et développement. C'est un programme de formation et de mentorat collectif par promotion de 5 personnes, puisque toutes les 2 semaines, tu as une session de 2 heures en visioconférence avec un mentor, t'as le replay des vidéos pour faire tes révisions, les notes du mentor, une transcription complète faite par IA de chaque atelier et un espace de discussion pour la promo. Et en bonus, tu as les plans précédents. Donc, l'Académie Frogit, c'est vraiment là pour propulser ta maîtrise de GitLab à une vitesse supérieure. Et comme c'est nouveau, en fait, que je teste cette offre-là, je fais une bêta pendant 3 mois, du mois de juin au mois d'août de cette année, donc 2024. Je te propose de prendre, de faire partie de la bêta avec 50% de réduction sur les prix. Et en échange, je vais te demander un témoignage et un retour sur la bêta. Ça me permettra de mieux qualifier l'offre et de voir là où justement je peux améliorer les choses. Donc, tu peux aller sur bref.lydra.fr/academy-frogit. Ou alors c'est le premier lien en description et puis tu verras tout ça et puis si t'as besoin tu peux m'écrire aussi, tu peux prendre contact avec moi. Il y aura les tarifs en plus sur cette page là, tu verras, comme il y a 3 plans, il y a 3 tarifs. Mais là ce que je te propose c'est la bêta au tarif le plus élevé mais avec les 50% de réduction. Alors Erwan, c'est toi qui vas nous parler d'un nouveau changement de licence.
Oui, alors attention, c'est pas aussi dramatique que ce que tu as annoncé en ouverture en disant que ça allait plus être libre, hein. C'est un peu trollé. Mais bon, effectivement, on va parler du changement de licence de Redis. Alors, long story short, Redis abandonne sa licence permissive BSD au profit d'un nouveau système où on va voir il y a 2 options. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Redis, qu'est-ce que c'est? C'est un service de database in-memory qui est NoSQL, pardon, et qui est globalement designé pour le scaling, pour pas avoir de downtime et pour de la haute performance. C'est clairement un des standards des stacks d'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de licence? En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 ans, on en avait parlé dans un podcast il y a 3 ans, Elasticsearch, et en fait la suite Elastic globalement, avait changé sa licence en passant de Apache 2, 2.0, à un système associant la licence SSPL pour Server Site Public License, et une licence qu'ils ont confectionnée eux-mêmes et qui s'appelle la Elastic License V2, ELV2. Donc, et la SSPL, c'est une licence qui a été poussée par MongoDB quand, pareil, Mongo avait changé de licence en 2018. Donc, revenons à Redis. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce changement, en fait, le changement donc, qu'on évoque actuellement, en fait, il est déjà d'actualité puisqu'il s'applique à la version 7.4 de Redis qui a été publiée fin mars. Donc, à partir de cette version, on va retrouver le nouveau système de licence. Donc, exit la licence BSD3 et place, encore une fois, un mix de deux choses qui est soit la SSPL, qu'on a évoqué rapidement, soit une licence homemade qui s'appelle la RSALV2 pour Redis Source Available License. Donc, pour rappel, la BSD, qu'est-ce que c'est? C'est une licence, on va dire, permissive dans les grandes lignes qui permet d'utiliser Redis sans payer. Voilà. La RSALV2, qui est la licence proposée par Redis, permet aussi la copie, la distribution, la création de dérivés et la mise à disposition de tiers, mais ça interdit toute commercialisation ou fourniture en tant que service managé. Et la SSPL, ça lève cette dernière barrière, c'est-à-dire que on ne peut pas fournir le service de façon managée, si on le fait, on doit ouvrir gratuitement le code source de son implémentation. Et le truc qui est assez intéressant avec la SSPL, c'est qu'elle est considérée comme contaminante, c'est-à-dire que le tiers qui souhaite fournir le service Redis sous cette licence, il doit ouvrir donc tout le code source de son implémentation. Donc en fait, tourne autour de son déploiement, de comment c'est managé, etc. Et donc, en fait, des secrets de fabrication, on va dire, de l'hébergeur en question. Et en fait, en ouvrant cette partie-là du code, bah, ça permettrait, entre guillemets, à n'importe qui de reproduire exactement la stack du fournisseur de service qui a ouvert son code. Donc, on comprend vite que c'est quand même assez dissuasif. On comprend vite aussi qui est visé par ce changement de licence assez drastique, puisque, comme vous l'avez compris, l'objectif derrière ce changement, c'est de protéger du fait que les cloud service providers ne pourront pas filer le service sans jamais en gros participer au développement ou à une contrepartie. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la stack ELK donc il y a 3 ans. Donc tous les cloud service providers qui hébergent des offres qui sont fondées sur Redis à partir de la 7.4 devront en gros négocier une licence commerciale pour continuer à fournir le service. Donc je vous le donne en 10 000. Qu'est-ce qui se passe quand ce genre de choses arrive? Eh ben, les gros cloud service providers qui se sentent en gros impactés par ce changement de licence. Donc, ils se réunissent ensemble. Ils disent, nous, on a quand même envie de pas payer cette licence commerciale parce que on en diffuse du Redis. Ça va nous coûter une blinde. Et donc, du coup, bah, ils proposent de faire un fork, tout simplement, à partir de la dernière version de Redis qui n'était pas sous cette licence-là. Et c'est comme ça que AWS, Google Cloud, Oracle, mais aussi bien d'autres, ont proposé le projet alternatif qui s'appelle Valky et qui est déjà annoncé par la Fondation Linux, etc. Donc en gros, ce projet propose de continuer d'améliorer Redis et de lui proposer des features sous la licence BSD d'origine, et donc en créant un fork à partir de la 7.2.4. Voilà. Un des trucs qui est intéressant à retenir là-dedans, c'est que en fait, la question c'est qui va être derrière ce type de projet. Donc on a compris qu'il y avait les gros cloud providers, mais s'ils ont pas de gens pour travailler vraiment sur ce sujet, c'est un peu un échec annoncé. Mais en fait, il y a déjà des anciens membres de l'équipe principale de Redis qui travaillent maintenant chez AWS par exemple. J'avais marqué dans mes notes le nom de Madeline Olson. Et qui, en gros, il travaille chez AWS et son travail, ça va être de coordonner les efforts pour faire de Valky un outil au top. Et ils vont communiquer une feuille de route, enfin une roadmap incessamment sous peu. Et voilà comment, encore une fois, après tous ces changements de licence, on va se recréer des outils divers qui vont, même s'il y a une volonté de garder les choses assez proches et on va dire compatibles, vous imaginez ce qui va se passer dans quelques années. À un moment donné, ça risque de diverger et commencer à créer des premières vraies frictions. Damir, qu'est-ce que tout ceci t'évoque? Est-ce que c'est pas déjà du déjà vu? Et qu'en penses-tu?
C'est du déjà vu et revu. Et c'est un problème qu'on a maintenant depuis, j'ai envie de dire, le début de l'explosion des offres cloud, des services managés qui reposent sur des briques open source, parfois sans beaucoup contribuer ou sans contribuer du tout. C'est quelque chose qui est compliqué à trancher, hein. Clairement, l'open source, faut pas oublier que c'est quand même un business qui a un modèle de rentabilité, de fonctionnement qui est compliqué et assez fragile. Et là, clairement, on a foutu un gros truc qui le met encore plus en fragilité. Donc oui, ça, les problèmes là-dessus s'enchaînent. Après, est-ce que la solution, c'est de fermer le code source ou en tout cas de mettre des licences différentes? Je suis pas sûr. Est-ce que la solution, parce que la solution, on sait ce qui se passe après. Là, ils l'ont forqué. Dans 4 ans, on va dire 80% des gens qui l'utiliseront à partir d'un cloud provider, donc utiliseront la version forquée. comme tu dis, ils vont diverger et du coup ils vont l'imposer. Et puis la version, on va dire originale, va être de moins en moins utilisée parce que elle correspondra plus au standard entre guillemets de facto par l'utilisation. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu un combat qui est compliqué à gagner. Je ne sais pas comment ça se passe. J'aimerais bien savoir comment ça se passe en fait. En dehors de ça, parce qu'on a les communications officielles, on a toutes ces choses-là. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment ça se passe, les discussions avec AWS, avec GCP, avec Scaleway, avec d'autres, hein, parce qu'il y a aussi nos clouds français. Quand on est un Grafana, quand on est un Elasticsearch, quand on est un Redis, comment ça se passe quand ils vont les voir et disent, bah, nous, on a besoin d'aide là-dessus, vous utilisez notre produit, vous faites de la marge dessus, comment ça se passe? J'aimerais bien ces discussions-là, parce que je pense que c'est super intéressant. Mais pour l'instant, bah oui, les gros, on va dire, les entreprises ont l'argent, donc ils ont les moyens de gagner, on va dire, la guerre à coup sûr. C'est, j'ai pas trop d'autres choses à dire malheureusement.
Merci Damir. Moi, j'en profite pour dire que je vais parler d'une alternative dans la section des outils. Par contre, je suis comme toi en fait, c'est dur de trancher, parce que d'un côté, en effet, ces solutions-là, elles ont besoin de vivre, et donc elles ont besoin de finances, de contributions. Mais d'un autre, fermer, mais parce que du fait, c'est pas une licence libre, c'est une licence open source, mais elle est pas libre. Puisque, je sais pas si tu l'as dit, mais elle est pas reconnue c'est 1, 2, 3, l'open source initiative. Ce que je veux dire, c'est que c'est dommage d'en arriver là et puis de voir les grands mastodontes forquer l'outil et puis donc de mettre les moyens dans le développement. Pourquoi ils l'ont pas fait avant? C'est toujours compliqué. Alors moi, je me pose une question quand même. C'est ce qu'il y a une licence que j'aime beaucoup qui est l'AGPL. Si j'ai bien compris, la SSPL, c'est une version modifiée de l'AGPL. Et l'AGPL, elle ne contamine pas les logiciels autour. C'est pas une licence que j'appellerais zombie où elle va arriver et elle va tout contaminer, tout ce qui est autour. Par contre, la GPL, si t'as un produit sous licence AGPL, si tu l'utilises, si tu fais une implémentation différente, tu te dois de reverser tes modifications, mais sur le logiciel seulement, au logiciel éditeur, mais pas les logiciels autour. Ce qui pour moi est un vrai problème, parce que contaminer les logiciels autour qui sont de l'ordre du secret industriel, c'est pas forcément un bien. Moi-même, je suis CTO d'une forge, j'utilise un logiciel libre. Par contre, tout ce qui est autour, la gestion qu'on fait autour, la configuration, l'infra, ce code qu'on développe, bah, c'est notre secret industriel, c'est pour ça qu'on nous paye. C'est pas que pour GitLab, c'est aussi parce que c'est la manière qu'on a d'héberger GitLab et Matterport. Bah, je me pose ces questions-là sur cette licence-là et ces contaminations, puisque bah du coup, tu perds ton avantage business. Et alors moi, je me pose une question. Peut-être que vous avez la réponse ou pas. C'est est-ce que si on a une offre qui utilise un Redis, qui n'est pas managé, hein, mais qui utilise un Redis, je prends un exemple tout bête, hein, GitLab, il utilise Redis. Donc dans GitLab, tu as une brique qui est Redis. Est-ce que si tu proposes un service SaaS qui est basé sur GitLab ou un autre service qui utilise Redis, est-ce que t'es impacté par ça, par cette licence-là, et est-ce que tu dois rendre libre ton propre logiciel?
Alors je crois que non, justement. C'est vraiment le fait de fournir le service Redis en lui-même qui est sous le joug des contraintes citées. C'est pas tu fournis ton GitLab, il utilise Redis, bah très bien. Mais ça, c'est pas impacté.
Est-ce que vous avez discuté avec des fournisseurs cloud qui ont des services Redis managés pour savoir ce qu'ils en pensent? Alors après, c'est très récent comme news, hein, mais...
Bon, pour le coup, on repose quand même très peu sur des services managés pour la plupart de nos clients. Donc au final, on n'a pas trop cette problématique. Mais c'est vrai que ça va être intéressant de voir la position, notamment des fournisseurs plus petits, parce que bon, les AWS et autres, on sait que ça va être dans le fork, hein, comme pour OpenSearch. C'est assez couru d'avance, ça va être la position assez similaire.
Ouais, je pense qu'on va clairement vers ça très vite. Hein. C'est dans quelques semaines, t'auras le Valky à la place, enfin comme moteur à la place de Redis sur AWS et tous les autres. Hein. Ils peuvent pas s'arrêter et friser.
Il y aura juste
friser comme ça. Quoi.
Il y aura juste une couche de compatibilité sur le protocole, quoi, pour que les appels fonctionnent. Comme il y a plein de trucs, hein, comme il y a avec S3, comme il y a avec un tas de choses.
Exactement. Alors d'un côté, c'est bien pour la compétitivité et l'innovation, mais d'un autre, ça scinde les forces encore. Déjà que l'open source est mal en point, je trouve, c'est pas fait pour améliorer les choses.
Oui. Mais assez ironiquement, en plus, on voit des fois un peu là-dessus, on va dire, les grands géants, comme des gens qui détruisent, on va dire, ces logiciels open source, mais d'un autre côté, c'est eux qui financent le plus l'open source aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu une position qui est compliquée, globalement, à avoir. Quoi. C'est pour ça que j'aime bien la teneur des discussions en interne, parce que j'imagine mal un AWS ou autre, après je me trompe peut-être, je suis peut-être naïf, hein, mais refuser tout en bloc et dire non, on veut juste profiter de vous parce que on n'a rien à foutre. Ils contribuent déjà pas mal à de l'open source, mais typiquement Google, ils contribuent déjà pas mal, ils donnent déjà pas mal d'argent. Je suis pas sûr que ça les dérangerait tant de donner un petit chèque. Ou est-ce qu'il y a d'autres contraintes? Franchement, j'en sais rien, mais je serais intéressé de le savoir.
Ouais. En fait, il y a aussi une ambivalence, c'est que ces grandes sociétés sont elles aussi qui profitent le plus du libre. J'avais lu un article sur le sujet justement, et à mon avis, il y a un enjeu. On a vu avec HashiCorp et les autres avant, il y a un enjeu business des éditeurs parce que eux, ils proposent une offre cloud, d'arrêter de se faire concurrencer par des tiers qui ont plus d'argent qu'eux, alors que c'est eux-mêmes les créateurs du logiciel, mais c'est hyper compliqué. Je sais pas vraiment quoi en penser. Je suis assez mitigé là-dessus. En tout cas, je suis pas optimiste pour l'avenir. Je pense qu'il va falloir qu'on revienne sur le sujet en analysant un peu tout ce qui s'est passé avec ces licences-là. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, ce sera intéressant. Mais disons que dans un monde idéal, on aura un méta cloud entre guillemets qui fait le lien entre plein de petits services cloud où chaque société, on va dire éditrice, a sa brique, on va dire, mais c'est dans la situation idéale, on sait que ça marche pas comme ça, parce que le plus important en cloud, c'est l'intégration et le fonctionnement d'écosystème, et que ce modèle-là ne marchera pas.
Clairement, clairement. Erwan, un dernier truc à dire ?
Non, là j'étais en train de relire le détail de la licence sur le site de Redis, et en fait, peut-être que j'ai dit une bêtise, c'est pas très clair, si tu fais un truc enfin si tu fournis un service au-dessus de Redis, à quel point ça t'impacte. Bon, modulo ça, effectivement, enfin on voit tous les problèmes que ça va engendrer, mais surtout sur du plus long terme. Et le vrai truc, c'est on reparle de ça dans un an et on voit ce qui s'est passé, quoi.
Mais dans un an, c'est des IA qui feront les commits sur les projets open source et qui les maintiendront. Il n'y aura plus de problème.
Ah oui, peut-être. Il faudra qu'on en parle aussi. Donc rendez-vous dans un an. En tout cas, j'espère que ça contamine pas les projets au-dessus, parce que le nombre de projets et de SaaS qui utilisent Redis pour faire une base de données clé valeur, ça doit être impressionnant.
Oui, alors voilà. J'en passe une rapidement. Je viens juste de lire la FAQ sur Redis, et en fait, du coup, c'est bon. Tu peux fournir le service. En fait, c'est vraiment le côté du service managé qui est dans la licence.
C'est bon, on est sauvé. C'est pas la fin du monde.
Voilà, merci Erwan pour cette bonne nouvelle. Bref. Le logiciel libre, il faut le financer, mais le contenu libre, c'est pareil. Alors, si tu aimes ce podcast, tu sais que c'est du contenu libre, et si tu veux t'assurer qu'il continue longtemps, le meilleur moyen, c'est de nous faire un petit don en nous soutenant sur Liberapay. Liberapay, c'est une plateforme de dons qui est complètement libre, pour le coup, elle, et qui est gérée par une association française. Tu peux aller sur soutenir.compagnon-devops.fr. À ton bon cœur, tu trouveras le lien en description. Sinon, tu peux évidemment partager ce podcast. On est que trois, du coup, j'enchaîne. J'ai une deuxième news pour vous. Le nouvel équilibre du cloud. Microsoft et Google reprennent du terrain. Alors, aujourd'hui, on va se plonger dans l'univers compétitif des fournisseurs cloud, où les géants technologiques se livrent une bataille acharnée pour dominer un marché en pleine expansion. Alors, ces dernières années, on a assisté à une évolution significative du marché du cloud, historiquement dominé par Amazon Web Services. Mais le titan se fait challenger et le paysage change. Les données récentes de Synergy Research Group montrent une tendance intéressante. Alors, bien qu'AWS maintienne une part importante du marché et la première tête du classement, puis la première place du classement avec 31% de part de marché, son avance diminue face à la croissance robuste de Microsoft Azure et Google. En effet, Microsoft a vu sa part de marché augmenter avec près de 2 points de pourcentage en un an. Alors, en 2018, Azure, c'était 15% du marché contre 24% aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça fait 9% en 5 ans, c'est proprement impressionnant. Surtout que, tu le verras dans les articles, on voit une augmentation des revenus en escalier, ce qu'on ne voit pas sur les autres fournisseurs cloud. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est très intéressant. Alors, l'essor de l'intelligence artificielle générative a particulièrement dopé les dépenses d'infrastructures cloud, avec un record de 74 milliards de dollars dépensés au quatrième trimestre 2023. Cela marque la plus grande augmentation trimestrielle jamais réalisée, signe que le secteur ne montre plutôt aucun signe de ralentissement malgré un marché de plus en plus saturé. Alors, c'est 12 milliards de plus qu'en 2022. Bon, à quoi c'est dû tout ça, vous pouvez me demander. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a Microsoft et Google qui ont investi massivement dans leur offre cloud, qui améliore du coup la technologie et l'accessibilité de leurs services. Et ensuite, ils bénéficient de l'adoption croissante de leurs services par les entreprises de toute taille, attirées par les innovations en matière de sécurité, d'évolutivité et d'intégration d'IA. Alors, je vais clôturer cet édito par mon conseil personnel sur les entreprises, aux entreprises qui cherchent un fournisseur cloud si elles n'en ont pas un. Déjà, il y a plusieurs points à considérer. Certains sont tech, d'autres business et certains stratégiques. D'abord, il y a évidemment le coût, puisque vous devez être rentable, c'est votre fournisseur principal souvent, donc vous devez être rentable avec le coût de votre fournisseur cloud. Ensuite, il y a les services spécifiques, donc là c'est vraiment technologique. Est-ce que les capacités d'innovation de votre fournisseur cloud vont répondre à vos besoins technologiques? Est-ce que les briques qu'il propose répondent à vos spécificités et vos besoins? Ensuite, il y a vos dépendances aux services propriétaires. Tout à l'heure, on parlait des logiciels libres qui sont fournis par des fournisseurs cloud, mais il y a aussi des logiciels propriétaires. C'est ce qu'on appelle le lock-in. Est-ce que vous allez être marié ad vitam aeternam avec votre fournisseur cloud? Et enfin, il y a un enjeu stratégique avec les dépendances aux lois extraterritoriales. Vous le savez, c'est mon dada, la souveraineté numérique. Donc, pour moi, ça fait partie des 4 critères. Il y en a plein d'autres, évidemment, mais j'ai voulu mettre ces 4-là en avant parce que c'est les questions que moi, je me pose en tant que CTO de Frogit pour choisir mes fournisseurs. Je les passe à travers ces quatre questions-là. Évaluer comment ces plateformes peuvent soutenir vos objectifs à long terme, surtout dans des domaines comme l'IA et l'analyse de données, si c'est votre cœur de métier, et sinon, vous savez quoi faire. Le marché cloud va continuer à nous surprendre avec son dynamisme et son innovation. Et moi, je garde un petit truc pour le débat qui va suivre. Alors, que pensez-vous de tout ça? Erwan, est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu étais au courant de tout ça déjà?
Non, les chiffres, je les avais pas trop en tête, tous les chiffres que tu as cités. Ouais, je sais pas si y a pas une histoire aussi que AWS à un moment était arrivé vraiment très très gros, donc forcément quand les autres deviennent plus compétitifs, il peut que perdre des parts de marché. Donc voilà, mais non, j'ai pas trop de. Ce qui est fou, ça reste effectivement la croissance des dépenses sur les cloud providers qui reste. Ça ne fait qu'augmenter et de façon tellement significative que c'est bon. Tu comprends aussi pourquoi tous les petits et les plus petits se disent si j'arrive à choper ne serait-ce que quelques pourcents, je suis bien. donc voilà. Mais non, j'ai pas plus d'avis que ça.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Damien, tu veux rebondir?
Ouais, bah, y a pas mal de choses, je pense, qui peuvent être dites. Je vais essayer de pas être trop long. Ça m'étonne pas trop, honnêtement, pour globalement plusieurs raisons. Déjà, Microsoft, selon comment c'est comptabilisé, ils peuvent compter beaucoup de choses dans l'offre cloud. Notamment tout ce qui est lié au parc, donc autant de l'Azure 360 que toutes les offres d'AD managées, etc., qui sont et d'Exchange, qui sont quand même des choses qui sont très populaires auprès des DSI. Hein. Faut pas oublier que Microsoft, on a beau ne pas les aimer, ils ont un bon carnet de contact chez les DSI dans à peu près tous les pays du monde, donc c'est assez simple de pousser des solutions. Ça m'a étonné qu'ils soient pas passés à l'offensive hein, beaucoup plus tôt. En tout cas, beaucoup plus fort, beaucoup plus tôt, mais je pense aussi qu'ils avaient besoin de maturité sur leurs produits, maturité qu'ils ont l'air d'avoir quand même aujourd'hui. J'en vois de plus en plus, si j'ose dire. Ensuite, pour ce qui est de Google, je pense que eux, ils avancent bien aussi. Alors, c'est pareil, je sais pas s'ils comptent la suite bureautique Google dans les stats, comme Microsoft, ce qui peut aider aussi, ce que AWS n'a pas. Et ensuite, ce qui me semble intéressant pour Google serait de voir les produits. Mais je serais prêt à parier que beaucoup de gens qui vont sur Google, c'est pour GCP qui est le Kubernetes Manager GCP qui est quand même le meilleur cube dans les trois. Et toute la partie data avec BigQuery et tout ce qui s'ensuit, qui est là aussi vraiment à un monde d'avance. Donc je pense que pour eux, c'est vraiment les deux axes de progression. Donc c'est pas étonnant. Bah après AWS, pourquoi eux ils arrivent pas à prendre plus de marché? Bah je pense qu'eux ils ont pris tout le marché qu'ils pouvaient à un moment. Aujourd'hui, bah pour eux c'est beaucoup plus dur de prendre du marché et leur but c'est plus de garder, on va dire, le marché, en tout cas d'en perdre le moins possible, parce que la concurrence va être de plus en plus agressive, ce qui est normal.
Merci Damien. Ce qui est intéressant et ce que j'ai pas dit en fait, c'est que Amazon Web Services plus Google plus Azure représentent 66% des parts de marché. Et tu le verras avec les liens que je te mets en description. En fait, les clouds américains, donc déjà, sont les premiers, sont classés. Et tout cela représente un rapide calcul 73%. Des parts de marché. Ensuite, il y a les cloud chinois qui représentent 6%, puis il y a 21%, c'est les autres. D'après ce que je lis, ça inclut en fait le chiffre d'affaires sur les plateformes as a service, infrastructure as a service et le cloud privé. Et potentiellement pas les SaaS. Ça reste à valider, mais en tout cas le graphique que j'ai sous les yeux ne parle pas des SaaS. Et moi, tout ça, en effet, ça me fait dire que il y a énormément d'argent là-dedans, parce que pour dépenser près de 74 milliards, ça veut dire qu'il y a un chiffre d'affaires monumental, parce qu'on peut pas se permettre de dépenser autant en recherche et développement si on n'a pas, je sais pas moi, x4, x5, x10 en chiffre d'affaires. Moi, ce que je voulais apporter, et je voulais en débattre avec vous, c'est la soutenabilité écologique de tout ça, puisqu'on sait que l'IA fait partie des dépenses, et on sait que l'IA a un coût écologique très important, que ce soit en termes d'entraînement ou en termes d'utilisation, et en termes de renouvellement des machines. Est-ce qu'à votre avis, c'est soutenable de continuer comme ça? Parce que là, je parle même pas, c'est même pas du cloud d'hébergement de services VOD ou autre. Enfin, je veux dire, là vraiment, l'IA va exploser dans les années à venir, et donc ça veut dire que les dépenses énergétiques et ressources naturelles cloud vont exploser. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce truc-là? En tout cas, moi, à titre perso, je suis inquiet de voir autant de dépenses aussi vite, et je suis pas sûr qu'on puisse tenir la distance.
Tu veux dire autant de dépenses pour avoir des IA qui hallucinent des librairies qui n'existent pas et qui servent après de failles pour du code malicieux? Non, bah ça, malheureusement, la crainte de l'IA, je vois ça un peu comme la suite entre guillemets logique. Alors je dis pas que je cautionne pour autant, mais c'est l'usage logique qui sera fait de ces plateformes et tout. Donc tu peux, ça va être très compliqué d'aller contre ça, hein. C'est...
Ouais, c'est encore un autre sujet, hein, quand même, cette histoire d'IA, on va dire, et l'écologie comparée au sujet de base. Mais rapidement, moi, je pense qu'on est encore au début, hein, de l'IA. On est au début, on va dire, de la nouvelle phase de l'IA, où ça a repris un peu de c'est nouveau à la mode, on va dire. C'est un peu comme tout, hein. L'IA, c'est assez vieux. Des gens faisaient des recherches dessus. C'était moins à la mode. Donc, ça a moins de financement. Et maintenant, c'est nouveau à la mode. Un peu comme on va dire l'espace, hein, l'exploration de l'espace, qui était plus du tout à la mode. On foutait plus d'argent dedans. Alors qu'on avait été sur la Lune. Et puis, d'un coup, y a Musk qui vient. Il fait, j'ai une trop bonne idée. Je vais m'investir dans rien d'espace. D'un coup, tout le monde doit investir nouveau dedans. C'est pareil. C'est des effets de mode et d'investissement. Et l'investissement, il drive un peu la recherche sur ces choses-là. Donc aujourd'hui, on a un stade où on fait de la recherche dessus. Moi, ce que j'espère, entre guillemets, et ce que je pense qui va arriver, après je me tromperai peut-être, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de faire ça sur du matériel qui est pas adapté, en tout cas qui est pas optimal pour ce type de choses, donc ce qui fait qu'on en surconsomme, clairement. Tout comme si demain je vais chercher du pain et je prends une Ferrari, une F40 ou quelque chose comme ça, c'est pas adapté et je vais sûrement plus polluer que je pourrais faire autrement. Et à terme, pour moi, et je pense même potentiellement dans pas si longtemps, ils vont avoir un intérêt à développer une architecture vraiment plus adaptée à l'IA, que ça soit quelque chose entre le processeur, peut-être le GPU. Il y a déjà des petits essais qui se font pour gagner en performance, et je pense que ça nous permettra de réduire grandement déjà l'impact au niveau matériel. Puis après, pour l'électricité, si on arrive à continuer à développer le nucléaire et tout ça, je pense qu'on peut avoir quelque chose qui soit soutenable.
Oui, alors pour moi c'est un lien, parce que les dépenses de R&D sont liées à l'IA, c'est pour ça que je voulais faire le lien, et puis parce que je vois les cloud providers et donc les data centers se répandre, et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que moi ça m'inquiète, notamment pour l'épuisement des ressources naturelles, à mon avis qui va arriver avant l'épuisement des ressources énergétiques. Et ce qui pourrait être problématique pour nos business, parce que l'IA, tu dis, en effet, on en faisait avant, mais pour moi, elle est rentrée clairement dans le grand public il y a moins de 2 ans. Clairement, il y a beaucoup de gens qui utilisent des outils comme ChatGPT et autres, et je vois pas comment ça peut ne pas continuer à se répandre. Alors peut-être qu'il va y avoir un ralentissement, mais j'y crois pas. Pour moi, on est vraiment face là à quelque chose proche de la révolution industrielle, donc une automatisation supplémentaire. Bon, là, on s'éloigne carrément du sujet. Il faudra qu'on en reparle. Mais cette histoire-là, et c'est ce que tu dis, j'espère qu'on va arriver à avoir des architectures qui vont faire des économies d'énergie et de ressources, parce que sinon, il va falloir faire des choix et se restreindre sur certains trucs.
Je pense vraiment qu'on va y arriver. Et puis, faut pas oublier. Si on prend un peu de perspective, j'ai envie d'être positif aujourd'hui. Mais si on prend un peu de perspective sur tout ça, faut pas oublier que on est globalement, on va dire, à l'apologie humaine niveau technologie, en tout cas au jour N comparé au passé. On a un taux de personnes qui ont fait des études qui sont très intelligentes, qui est supérieur à ce qu'on a eu dans le passé. On a des outils qui sont supérieurs à tout ce qu'on a pu avoir dans le passé. Avec tout ça, j'ai du mal à voir comment on pourrait pas faire mieux, quoi. C'est comme tout. Pour moi, c'est toujours pareil. Les technologies, au début, c'est pas optimal, ça surconsomme, c'est un peu chiant. Et puis après, on fait des évolutions. Je sais que je prends toujours les exemples dans l'industrie automobile, parce que c'est quelque chose qui est super intéressant d'un point de vue, on va dire, cycle de vie, parce que c'est une industrie qui est assez vieille, mais pas trop en même temps, et puis on voit comment elle a évolué. Mais on voit très bien que qu'on est arrivé à un point où on faisait des choses très complexes, et aujourd'hui on simplifie énormément pour utiliser notamment moins de ressources et en recycler un maximum. Donc c'est une question de cycle. Moi, je suis sûr que dans un an, voire deux ans, on commencera à avoir des processeurs dédiés à ça, avec une architecture hybride entre du GPU et de l'ARM, pour le coup, un truc qui va combiner le meilleur des deux, et on sentira beaucoup moins passer ces choses-là. Et l'IA, d'un autre côté, nous aidera à optimiser un tas de choses qui nous permettront de gagner encore plus de, on va dire, de ressources d'un autre côté, peut-être de polluer moins. Peut-être que les IA vont nous permettre de découvrir des solutions pour améliorer tout ça. Il faut positiver, il faut garder espoir, c'est plus important.
Ah mais c'est clair, il faut avancer. Merci pour cette note positive, en tout cas croisons les doigts pour la suite. Alors, si tu nous écoutes, sache que ce podcast il est en licence libre, en CC by SA. C'est une licence Creative Commons, ça veut dire que tu peux le prendre, le diffuser, tu peux découper des bouts, les remettre dans tes podcasts, etc. La seule chose que tu as à faire, c'est de citer la source et de dire que ça vient de chez nous avec le lien du podcast. Si en plus tu veux nous dire quelques mots en nous disant « Hey les gars et les filles, parce qu'on a aussi une podcasteuse, j'ai utilisé le podcast », ça nous fera énormément plaisir de voir qu'il est diffusé et qu'il est réutilisé surtout. Et ben, du coup, Damir, c'est toi qui vas nous parler de la dernière news.
Ouais, je vais vous parler de la dernière news, ce sera peut-être un peu moins positif et un peu moins sur une note d'espoir, quoique. Donc, on va parler de la backdoor XZ, c'est qu'on a appelé comme ça, ou XZ libzma. Donc, qui est une backdoor qui a un peu secoué le monde de Linux, du coup, il y a quelques semaines, et je souhaitais revenir dessus, parce que à mon avis, c'est un des faits, on va dire, de hacking, si j'ose dire, les plus intéressants depuis très 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 longtemps, pour un tas de raisons et un tas d'aspects qui sont super intéressants. Je vais essayer de résumer, ça sera forcément pas complet, on pourra en faire un podcast de 3 heures je pense et on n'en aurait pas fini avec cette histoire. Donc je vais essayer de reprendre la timeline globalement et prendre les éléments les plus marquants sur lesquels je voudrais développer des points. Donc il y a maintenant 2 ans, il y a une personne qui a utilisé son compte GitHub pour aider sur un repo qui est le repo XZ libzma. Donc ce repo là en fait c'est un repo qui est grandement lié en fait en dépendance à OpenSSH qui permet de gérer la compression des paquets du moins du trafic. Et là ce qui est intéressant c'est que déjà on parle pas d'un repo on va dire majeur ou quelque chose qui a trop de visibilité. On parle pas d'un repo OpenSSH directement comme systemd etc. Donc dans ce repo là il a commencé à commit comme tout bon contributeur pourrait faire. Donc il a commencé à aider sur des petites choses, puis de plus en plus de débloquer des gens, etc. La personne qui maintient encore du coup ce projet était pas mal prise et avait pas forcément beaucoup de temps à consacrer à ce projet. Donc pour lui, c'est un peu une très bonne nouvelle. Quand vous avez quelqu'un qui contribue régulièrement à votre projet, qui vous aide, que vous étiez tout seul et en galère parce que justement votre projet il a moins de visibilité qu'un gros projet qui est sur le devant de la scène, vous galérez plus à avoir des aides et des contributions. Donc jusqu'à là, tout le monde est content, ça avance, et ça, on parle de l'année 2022, début d'année 2022. Ça suit son chemin, il y a plusieurs commits, il donne plusieurs coups de main. Et puis quelques mois plus tard, il commence du coup à avoir une pression plus importante qui est mise sur le contributeur, le mainteneur du projet, du paquet. Et pas du paquet de la lib, le mainteneur de la lib et de l'outil qui est dédié avec. Et cette pression, elle va s'accentuer avec le temps, avec plusieurs mails et plusieurs échanges où des gens vont lui demander si le projet est maintenu, il va mettre du temps à répondre, et les gens vont lui dire que c'est globalement pas acceptable d'être mainteneur d'un projet si on n'a pas le temps de le gérer ou de répondre aux gens. Donc les échanges vont être un peu tendus, cette pression va s'accentuer petit à petit, jusqu'au point où on va lui suggérer à plusieurs reprises de passer du coup ce nouveau contributeur en tant que mainteneur. Et on va pousser à faire ça rapidement. Donc petit à petit, on va lui dire 2-3 fois de pourquoi attendre telle release pour le passer mainteneur, on en a besoin maintenant d'avoir du support. Ce qui fait que la personne qui gérait ce projet va céder et va d'ailleurs expliquer qu'elle était mentalement fatiguée et atteinte de tout ça. Donc du coup, c'était aussi une manière, on va dire, de de se libérer, parce que quand on met la pression là-dessus pour pousser à passer le flambeau, on finit par accepter, on va dire. Et je précise que ces échanges sont assez crus, assez violents. Hein. C'est pas des gants en mode tu es sûr que tu n'es pas en train de faire un burn-out ou autre. C'est vraiment c'est inacceptable. Franchement, je comprends pas ce qui prend du temps, etc. Donc pas des messages très sympas. Donc du coup, on a notre gentil hacker. Donc j'avais pas précisé, c'est Jiatan le nom. En tout cas sur GitHub, qui a pris le contrôle en tant que mainteneur du dépôt. Il va continuer à maintenir le dépôt, il va merger un tas de trucs et il va commencer à ajouter des petits bouts de code un peu malicieux. Pas des trucs de fou, des choses en Gitignore, des choses de ce type-là. Donc rien qui à première vue pose problème. Et il va faire ça petit à petit, il va le noyer dans plein de commits parce qu'il a, pendant ce temps, il contribue vraiment au projet, il le fait avancer, il corrige des bugs, il fait du support. Et 2 ans plus tard, donc là, faut bien se rendre compte quand même que ça fait 2 ans qu'il a commencé à contribuer au repo. Il va injecter une backdoor. Et pour injecter la backdoor, il va pas aller dans le code et faire une fonction myBackdoor et lui dire ben voilà, je la déclenche par défaut. Il va être plus malin que ça, et c'est là où c'est super intéressant aussi, c'est qu'il va faire du coup quelque chose qu'on pourrait rapprocher des supply chain attacks. Donc il va injecter ça en dépendance dans le build. Ce qui fait que si on regarde le code de la lib, on voit pas de problème, on voit pas de backdoor. Par contre, si on commence à regarder dans le process du coup de make pour faire du coup pour générer cette lib et le paquet, là on se rend compte qu'en fait il injecte du code extérieur qui est un code malicieux. Et ce code là, il est injecté dans le paquet qui est build et qui est livré. Là, on pourrait se dire c'est pas très grave parce que les distributions derrière au package et vont du coup recompiler de zéro et ils n'auront pas le problème là. En réalité si, parce que soit ils utilisent le même process de build donc qui contient dans son définition de, on va dire, de make cette faille, soit ils vont réutiliser le package déjà fait par cette personne, donc le package contaminé. Et on se retrouve avec toutes les distributions qui ont une grande partie des distributions qui ont repackagé cette lib vérolée. Donc cette lib vérolée qui était quand même pas activée si facilement que ça. Il fallait utiliser forcément systemd pour démarrer du coup OpenSSH et il fallait avoir OpenSSH sur son poste. Donc sur le poste ou sur le serveur où Linux était installé. Pourquoi je dis sur le poste? Parce que ça a été repéré assez rapidement pour que ça ne contamine pas les versions stables, donc beaucoup moins les serveurs. Et là où c'est intéressant aussi, un dernier point qui, moi, me semble assez fou, mais qui nous a sûrement beaucoup sauvé de temps et d'arrachage de cheveux à tout le monde, c'est que ça a été repéré par un ingénieur chez Microsoft, si ma mémoire est bonne, qui, ayant fait une mise à jour, du coup, sur sa version, on va dire, de testing de sa distrib, a remarqué que son SSH était de 200 millisecondes plus lent à ouvrir une connexion. Donc vu que c'était une personne qui était vraiment du type à tryharder et qui devait un peu s'emmerder, il s'est dit tiens, je vais voir pourquoi c'est plus lent, et en faisant ça en fait il a tiré le fil et il est allé dans le rabbit hole comme qui dirait, et il a trouvé cette backdoor qui avait été placée ici, et puis toute l'histoire a monté, ce qui a fait un super storytelling dans le sens où on a découvert les choses petit à petit et on a trouvé ça incroyable. Donc globalement, pas d'inquiétude, au final il y a que les versions vraiment de testing qui ont été touchées. Si vous êtes sur votre poste, si vous avez un PC et que vous n'avez pas OpenSSH, il n'y a pas trop de risques, mais en tout cas mettez bien à jour. Mais là où c'est intéressant pour moi, c'est plusieurs points. Déjà, c'est quand même que là on a une attaque de social engineering qui commence par l'ingénierie sociale, qui est pas une attaque qui est prévue genre sur au bout de 3 mois j'ai un résultat en mettant la pression ou autre. C'est qu'on a mis quand même 2 ans. Moi, c'est vraiment sur le temps long. Donc ça, c'est super impressionnant. Ensuite, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment attaqué une dépendance qui est un peu sneaky. Pas une grosse dépendance, on a choisi une petite dépendance qui a pas beaucoup de personnes pour maintenir, donc peut-être moins de contrôle, donc aussi qui sera plus susceptible d'être heureux si on va l'aider. Il va aussi, du coup, jouer beaucoup. Il y a un gros jeu sur la mise en pression du mainteneur. On sait pas si c'était des comptes qui étaient rattachés à l'attaquant ou si c'était des gens random. Et là, moi, ce que je trouve fou d'ailleurs, c'est quand même qu'on parle de gens qui ont mis des gros taquets dans les mails à un mec qui donne de son temps pour maintenir une lib. On lui a foutu des gros taquets et visiblement, il y a personne qui a été choqué dans le sens où, pour moi, ça montre quand même qu'il y a un problème dans l'open source. C'est qu'on trouve ces messages-là normaux. On trouve ces messages-là, en tout cas, Ça, on relève pas spécialement le truc. Si jamais on avait des échanges plus respectueux avec les mainteneurs ou les choses dans les cas comme ça, on aurait peut-être là déjà pu se poser des questions. Mais ça, je digresse un petit peu. Ensuite, le truc intéressant, c'est qu'on l'a pas mis dans le code, on l'a mis dans le process de build et on l'a pas fait d'un coup. Donc, on l'a injecté dans le process de build petit à petit. Ça aussi, je trouve, c'est assez dingue. Et enfin, pour finir, c'est qu'on a été sauvé non pas par un test automatique, non pas par une IA merveilleuse qui aura bouffé toutes nos ressources matérielles, mais on a été sauvé par un putain de mec qui faisait un tryhard sur du coup une latence de 200 millisecondes sur son SSH. Mais pour le coup, voilà, pour tous ces aspects-là, je trouve cette backdoor super intéressante. Tu aurais sûrement moyen d'en parler beaucoup plus. J'ai même hésité à en parler beaucoup plus dans un autre format. Mais pour le coup, c'était passionnant à suivre et je pense que ça remonte pas mal de problèmes. Je sais pas si t'avais suivi Christophe tout ça et ce que t'en as pensé.
J'avais suivi de très loin, j'en avais entendu parler et je trouvais ça assez impressionnant de prendre autant de temps pour arriver à ça. Je me suis quand même posé la question, aujourd'hui j'ai pas la réponse, de c'est quoi le bénéfice, enfin plutôt quel a été le bénéfice, parce que j'imagine que le bénéfice attendu c'était vraiment de cibler tout un tas de trucs, mais j'imagine que c'était OpenSSL, hein, la cible, c'est quand même assez sensible, mais finalement c'est quoi le bénéfice qu'il y a eu pour cette backdoor. Et moi ce que je trouve étonnant, c'est que y a quand même des gens qui pensent que ce genre de choses va réussir alors qu'on est dans le monde du logiciel libre. Et alors certes, là on a eu de la chance parce que ça a été trouvé rapidement, mais ça aurait pu être trouvé quand même, mine de rien. Ce genre de choses sur le logiciel propriétaire, combien de temps on aurait mis pour le savoir ?
Bah, peut-être moins, parce que pour arriver à contribuer sur un logiciel propriétaire, faut justement entrer les tests.
Exactement.
C'est là tout le débat. Là, on n'a pas du tout été sauvé par l'open source. On a été sauvé par vraiment la chance. Et si ça se trouve, moi, là, je vais, petit moment de, vous allez commencer à être parano. Ça se trouve, on a déjà eu le cas sur d'autres choses. On n'a pas remarqué. On a des backdoors sur tous nos serveurs.
Oui. Non, mais quand je disais le logiciel propriétaire, tu vois, tu peux impacter d'autres briques propriétaires ou alors l'éditeur lui-même du logiciel propriétaire peut te foutre une backdoor sans que tu le saches. C'est plutôt ça que j'imaginais. Mais en effet, là, clairement, est-ce que toi, t'as eu vent du bénéfice qu'il y a eu? Et puis surtout, ce mainteneur-là, il devient quoi? Il a été éjecté de GitHub ou qu'est-ce qu'il devient? Il a toujours son compte?
Ah, les comptes des deux ont tout de suite été bloqués. Du mainteneur original et du coup de sa du mainteneur qui avait fait le coup de force, on va dire, donc, pour obtenir cette place. Question bénéfice, on sait pas. Ça peut être un tas de choses. Ça peut être pour des... Ça peut être con, hein, mais ça peut être juste pour du pognon, ça aurait pu se vendre cher. Ça peut être juste pour un défi, ça peut être pour des questions politiques, ça peut être vraiment un tas de choses. Ça, je pense qu'on ne saura pas, je ne sais même pas si on saura un jour.
Moi, j'imagine bien une cyberguerre, en effet, quelque chose comme ça. Ça pourrait être, en ce moment même, vu l'état du monde, ça pourrait être valable. Et toi, Erwan, qu'est-ce que t'en dis ?
Alors moi j'avais suivi un petit peu l'histoire, mais par contre j'avais pas l'origin story avec la pression mise par mail que le gars a subi. C'est intéressant parce que du coup donc j'avais pas cette info, mais je comprends que ça a eu un impact fort dans la décision d'inclure le gars dans la boucle, et en fait c'est assez fou quand on y pense, quoi. C'est que tu disais, c'est du social engineering, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a beau avoir les systèmes de sécurité les plus avancés, les tests les plus poussés, etc., au bout d'un moment, si t'arrives à mindfuck un humain et à lui faire accepter un truc, bon bah ça y est, c'est gagné, hein, t'as pas besoin de tout le reste. Et après, effectivement, moi ce qui m'avait surpris dans cette histoire, et j'arrive pas à savoir à quel point c'est vraiment le cas, mais c'est si vraiment c'était un plan depuis le début, ou si c'est genre au bout de X temps que le gars il s'est dit je me rends compte que je peux avoir de l'impact. et comme tu dis, on saura probablement jamais trop les motivations et tout, mais c'est ça qui est intéressant. Et effectivement, la conclusion aussi, c'est que il faut toujours avoir dans son équipe des rageux qui vont chercher à comprendre des trucs un peu chelous. Et là, c'est cool. C'est cool, mais ouais, l'histoire elle est assez ouf. Moi, ça me rappelle, on en avait parlé il y a quelques temps aussi dans un podcast, une histoire pas tout à fait similaire, mais qui reprend un peu cette même idée de une dépendance qui est vérolée, donc du coup qui est inclus dans du code beaucoup plus populaire et qui du coup injecte un comportement inattendu. C'était sur, je me souviens plus de tout le détail, mais c'était sur Node. Il y avait une dépendance qui faisait je sais plus trop quoi d'ailleurs, mais en tout cas qui était inclus dans 12 milliards de projets, dont certains très populaires, et du coup ça avait pas mal crié. Donc moi je trouve que ce qu'on peut retenir aussi nous à notre niveau, c'est au moins de toujours faire l'effort par exemple sur GitHub, il y a le dépendabot qui est pas mal pour avoir des inputs sur est-ce que les trucs que j'inclus dans mon code, il y a des failles de sécurité reconnues ou pas. Alors bien sûr, dans ce cas-là, ça aurait pas marché, mais ça fait partie des trucs à mettre en place pour essayer de se prémunir au max d'inclure des trucs avec des failles ou quoi quand on n'est pas en mesure de tout suivre. Et j'en replace une pour un outil qu'on avait évoqué il y a quelques temps dans un des podcasts que moi j'utilise au quotidien et que je trouve très bien. C'est le site newrelease.io, je sais plus s'il y a un S à release, mais qui vous permet de vous mettre les projets les projets GitHub, mais ça peut être aussi ça lie par exemple ce qu'il y a sur
PyPy,
etc. Ouais, Docker, etc. Et ça va vous dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de ce truc-là, avec le changelog et tout. Et moi, je trouve que c'est aussi un moyen pas cher, facile à inclure dans vos CI pour garder à jour, etc. Pour suivre l'évolution de vos dépendances et tout. Et du coup, essayer d'éviter un maximum ce genre de soucis.
Je crois que le podcast que tu cherchais, c'est celui de janvier 2022 où on parlait de grève développeurs et open source. En effet, c'est quelqu'un qui avait fait grève de manière un peu brutale en injectant du code malicieux sur sa librairie. Je mettrai le lien dans la description. Et il y a une fiche YouTube qui va s'afficher. Et ben, merci pour tous ces mots. Et si vous êtes OK, je vais passer à la suite. Allons-y. Alors, si tu nous écoutes et que tu nous regardes sur YouTube et que tu veux avoir le swag, le même que moi avec mon super suite, le swag des compagnons va se lancer, puisque je vais lancer une boutique de vêtements. Et donc, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente et tu auras droit à une réduction au lancement de la boutique. Tu peux aller sur bref.lydra.fr/cddgoodies. Tu trouveras aussi le lien en description. Alors, notre traditionnelle section des outils. On n'a pas René ce soir, petite pensée pour lui qui est notre fournisseur officiel d'outils, mais on n'est pas en reste puisqu'on a quand même pas mal d'outils, mine de rien, puisque je crois que Damir t'en a ajouté pas mal. Alors on va commencer par un outil qui s'appelle Redka. Donc je vous le disais tout à l'heure, Redka c'est comme Redis mais sur SQLite et c'est du coup open source, puisque Redka vise à prendre en charge pas tout Redis, mais au moins 5 types de données, que sont les chaînes, les listes, les ensembles, les hachages et les ensembles triés. Donc vous pouvez voir une réimplémentation de Redis sur SQLite en allant sur le GitHub qui est dans la liste des outils. Est-ce que ce genre d'outils, justement, ça vous interpelle et vous intéresse pour avoir une alternative à Redis ?
Moi, j'attends de voir comment ça va évoluer pour l'instant. Je suis plus dans l'expectative, on va dire.
Ouais, moi, je suis un peu comme Damien là-dessus. C'est-à-dire que je trouve l'initiative cool, c'est bien. Mais je regarde ça de loin et puis on verra ce que ça deviendra pour faire un move plus sérieux.
Oui, je trouve aussi que, mais ne serait-ce que pour l'idée de réimplémenter Redis sur SQLite, qui du coup c'est une autre manière de voir les choses, je trouve ça intéressant, mais en effet, c'est pas encore prêt pour être utilisé en production, ou alors sur des tout petits SaaS peut-être, je ne sais pas. Damir, je crois que l'outil suivant, c'est le tien.
Bah, c'est même pas moi, du coup, moi ça me dit rien.
Ah bah alors c'est Erwan.
Oui, c'est moi. Je pensais que j'avais mis mon nom, excusez-moi.
Voilà, on a usurpé ma qualité d'animateur de participant.
Pardon. Mais oui, c'est moi. Et attention, c'est pas un outil, mais je voulais parler d'un compte Twitter. Puis c'est dispo sur d'autres plateformes, mais Work Chronicles, qui est juste des petits sketchs. Des petits sketch strips qui sont très très courts, de 4 cases à chaque fois, qui racontent des situations de travail, et en fait c'est on suit des équipes tech, un peu on peut imaginer comme commit strip, mais en beaucoup plus on va dire épuré, et y a pas mal de vannes qui touchent le monde du DevOps et du dev, et du coup pour vous offrir un petit sourire tous les jours, parce qu'ils publient quand même assez régulièrement, War Chronicles c'est très sympa, et le dernier est sur la documentation qui n'existe jamais quand on arrive quelque part, et moi je le trouve très très drôle, et Enjoy War Chronicles.
Du coup, en parlant de BD un peu marrante sur la vie en entreprise, je rajoute juste sur le blog de l'outil Toggle, ils font souvent des petites BD, des petits comics qui sont très marrants sur la vie et les langages de programmation. Je vais mettre le lien aussi.
Merci, je suis allé m'abonner puisque je suis un grand fan de Comic Strip, et donc j'aime beaucoup aussi l'esthétique épurée de War Chronicles. L'outil suivant, c'est un outil à moi. Du coup, je vais vous parler de Rospo. Alors, je l'ai pas testé celui-là. C'est un outil qui est destiné à créer des tunnels SSH sécurisés et fiables. On parlait justement de SSH tout à l'heure. Donc là, l'idée, c'est de fournir un seul binaire qui inclut à la fois le client et le serveur. L'objectif, c'est de rendre les tunnels SSH amusants et compréhensibles. Alors ça, c'est la promesse qui donne. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que la configuration se fait grâce à un fichier YAML qui me semble, même si la config d'OpenSSH c'est pas compliqué, hein, mais qui me semble beaucoup plus digeste. Néanmoins, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être pas encore prêt pour remplacer OpenSSH, mais pour s'amuser, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en dites?
Alors pour être totalement franc, moi j'ai mon alias qui va bien avec avec les options et tout, que sur lequel j'ai juste à mettre les machines sur lesquelles je dois rebondir ou faire mes tunnels, donc je pense que je suis clairement pas la cible. J'aurais trop de mal à changer mes habitudes là-dessus, quoi. Je suis pas la cible.
J'avoue que moi j'ai l'impression de pas en faire souvent des tunnels qui soient compliqués, parce qu'en général j'arrive à les taper sans trop de soucis en ligne de camp. Après, j'en fais pas non plus très très souvent. Mais ouais. Sinon, le mieux pour moi, ça me semble quand même d'avoir un VPN dans beaucoup de cas.
Bah là, clairement, ça peut être installé sur un VPN ou un petit conteneur qui tourne en tant que VPN. Si tu utilises Rospo, bah dis-le nous et dis-nous ce que t'en penses. Je crois que le suivant, il est bien de Damir cette fois-ci.
Ouais, cette fois-ci, on n'a pas usurpé mon identité. Je suis sauvé. Je vais parler de CluCTL, qui est un outil, en fait, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que j'ai pas encore eu le temps de vraiment tester. Mais qui, globalement, pour moi, est à suivre dans le coin de l'œil, pas forcément à utiliser tout de suite, mais clairement à suivre. C'est un outil qui permet de faire plusieurs choses. En réalité, qui apporte plusieurs choses. Mais globalement, c'est ce qui va permettre de gérer des déploiements sur des clusters Kubernetes, que ce soit avec du Helm ou du Customize. Ça va permettre de faire du templating là-dessus, ça va permettre de run et d'avoir des diffs un peu comme si on faisait du Terraform plan. Et ça va apporter en plus de ça un outil pour faire du GitOps avec et une web UI. Donc clairement, ça a l'air d'apporter un peu un tas de choses et ça c'est intéressant. Est-ce que ça va être une alternative à terme à du Flux ou de l'Argo? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je me garde ça de côté pour voir comment ça va évoluer.
Ça a l'air intéressant.
Moi, j'avais vu passer ce... Oh, excuse-moi, vas-y. Christophe. Je voulais juste dire, je l'avais vu passer, parce qu'un de mes anciens collègues me l'avait fait suivre, mais j'ai pas bien compris la key feature qui ferait que quelqu'un qui est habitué à FluxCD, par exemple, passerait là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai pas plus tilté que ça.
Pour moi, la key feature, c'est vraiment d'avoir tout qui est packagé, quoi. D'avoir un système qui va permettre de gérer les dépenses un peu plus simplement que Flux. On est très libre, entre guillemets. Un Flux, c'est vraiment qu'un moteur. Après, tu rajoutes ce que tu veux derrière. Là, globalement, il te donne vraiment un tas d'outils directement, une UI web et tout ça. Donc, pour moi, le vrai intérêt, c'est là-dessus, quoi. Il se place plus comme ça.
Merci, je suis un peu éloigné du monde cube en ce moment, mais ça m'intéresse fortement. Moi, je suis Team Argo. Je sais que toi, Damir, t'es plutôt Team Flux. Mais en effet, ça me rappelle un peu Argo avec cette interface graphique. Après, c'est une ligne de commande aussi.
Oui, c'est aussi une ligne de commande. C'est pour ça que ça fait beaucoup de choses. Donc moi, je pense que le vrai intérêt d'un outil comme ça, c'est plus d'avoir directement son écosystème avec un minimum, sans avoir à ajouter des plugins ou autre, qu'autre chose. Je pense qu'elle est vraiment là, leur proposition, et d'être un peu plus simple, du coup, à mettre en place.
Oui, ça a l'air très versatile. Genre, tu peux l'utiliser dans une intégration continue. Et j'imagine que ça peut faire aussi du GitOps en mode pool, c'est-à-dire que tu l'installes sur le serveur ou en tant qu'agent dans ton Kubernetes, et puis il va aller les chercher. J'imagine que tu peux faire ça aussi. Et donc, tout ça avec le même outil?
C'est en tout cas la promesse, d'après ce que j'ai compris, de la doc.
Eh bien, on va aller regarder ça de plus près. Merci. Eh bien, tu as un autre outil, dis donc. Damir.
Oui, c'est toujours moi. Du coup, on en parlait de Loki. Et Loki, c'est bien, mais on pourrait espérer mieux. On pourrait espérer de la concurrence pour améliorer les choses. Donc du coup, je vais vous parler de QuickWit, qui est en fait un outil assez jeune, mais qui se veut comme étant une alternative très axée sur la performance au niveau des recherches et autres, sur ce type de besoin. Donc du coup, sur des consultations de logs notamment, et après ils veulent rajouter, comme beaucoup de gens, l'open telemetry, les traces et tout ça. Là où c'est intéressant, c'est que pour moi, c'est un des plus gros soucis de Loki, c'est vraiment les perfs. Donc, si ça peut régler le problème, pourquoi pas?
Ah oui, c'est. Donc, du coup, c'est plus économe en ressources. C'est intéressant, ça.
Alors, plus efficace, surtout, parce que Loki, de ce que j'ai vu, en tout cas, et de ce que. C'est pas moi qui ai testé dans ma boîte. Mais. Parce qu'on a nos logs sur Loki pour la majorité de nos clients, par défaut. Et ça peut être un peu lent, dans les recherches et autres, notamment dû au fait qu'il n'y ait pas d'index, tout simplement.
Eh ben, je suis curieux d'aller voir ça. Après, ça veut dire que tu remplaces Loki dans ton Grafana avec QuickWit, c'est ça? Si tu utilises Grafana comme nous.
Excuse-moi, ça, j'ai eu une micro-coupure dans le casque.
Je disais, ça, du coup, ça remplace ton Loki dans ton Grafana, et c'est Grafana qui va s'interfacer avec QuickWit et pas.
C'est
okay. Ça. Ok, intéressant. Et toi, Erwan, qu'est-ce que tu en penses?
J'ai rien à ajouter, pardon. Je connaissais pas, et effectivement, je viens de regarder rapidement suite à la présentation le site, et la promesse est intéressante. Maintenant, faut que ça soit benchmarké, parce que les boîtes qui citent, c'est pas des choses qui nous parlent forcément pour démontrer la valeur, on va dire.
Eh ben merci pour ces petits outils. Alors moi, je vais parler d'un outil qui n'a pas de nom officiel, donc je l'ai appelé GitLab Python Dora Matrix. C'est un outil en fait de Benoît Quetil, je pense que ça se prononce comme ça. Benoît, j'espère que je fais pas d'impair sur ton nom de famille, de Zenica. Donc il nous propose dans un article de blog un petit script Python pour calculer les métriques d'Aura depuis vos projets GitLab, puisque si vous n'avez pas GitLab, je crois que c'est la version Ultimate qui propose les Dora Metrics, ou la version Premium, je sais plus. En tout cas, si vous êtes sur la version Core, vous n'avez pas ce genre de truc. Mais là, l'idée, c'est de fournir un petit script Python que vous pouvez lancer et qui va interroger vos projets, qui va calculer les Dora Metrics. Donc les métriques Dora, on en parle régulièrement, notamment quand il y a le rapport qui sort. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le questionnaire des métriques Dora est ouvert. J'ai vu ça cette semaine. Petit aparté, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de petit outil qui ne paye pas de mine et qui sont plutôt là pour vous apporter des informations?
Clairement, c'est le genre de petits outils qui peut être très utile. Ça me fait penser à un autre outil, mais que j'ai plus le nom, dont quelqu'un de mon entreprise m'a parlé, qui permet de calculer notamment de donner en gros toutes les métriques pour calculer tout ce qui est SLA, etc. Donc non, c'est le genre d'outils qui sont bien pratiques au quotidien, et c'est vrai qu'on y pense un peu moins forcément à les citer parce que c'est plus petit.
C'est vrai, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Si tu as l'outil, n'hésite pas à venir en parler dans un futur Actu DevOps, justement, Damir.
Mais je le ferai, je le noterai pour la prochaine
Merci
fois.
Merci Irwan. Toi, est-ce que tu es fan de ce genre de petit truc?
Alors, je trouve ça cool, mais par contre, j'ai pas bien compris ce que tu as dit. C'est des métriques qui sont données par GitLab naturellement quand t'as le plan le plus
non,
élevé.
Non, en fait, quand t'as le plan, quand t'as l'un des deux plans, tu as accès à donc toute une interface qui te donne des métriques d'Aura. C'est beaucoup plus poussé. Là, l'idée, c'est d'avoir un petit script Python qui va aller scanner tes projets et qui va te donner des métriques. Bon. En plus, d'après ce que j'ai lu dans l'article, les métriques sont calculées de manière différente. Donc, à toi de voir. Donc, si t'as pas, justement, la licence Premium Ultimate, je sais plus exactement dans laquelle c'est, tu peux utiliser ce genre d'outil. Après, ça génère pas un rapport prêt à être ingurgité, mais je pense que comme il y a le code du script Python, tu peux très bien générer des CSV ou des trucs comme ça.
Ok. En tout cas, c'est cool d'avoir ça. Bravo. Aux contributeurs.
Si tu nous écoutes, tu peux retrouver tous ces outils sur le site des Compagnons, puisque maintenant il y a une page outils sur le site avec un moteur de recherche. Justement, je parle des Compagnons, mais les Compagnons, c'est pas que un podcast, c'est pas que des vidéos ni un site internet, c'est aussi une communauté avec un forum de discussion. Et on est tous les trois dessus. Donc tu peux venir discuter avec nous et discuter avec tout un tas d'autres professionnels, puisqu'il y a beaucoup de gens. Donc pour t'inscrire, c'est simple, tu vas sur le site compagnon-devops.fr, tu t'inscris et tu seras automatiquement invité à participer au forum. Alors, encore une fois, merci à tous les deux pour cet épisode qui, on s'est dit, en lançant l'émission, on n'est que trois, ça va pas durer longtemps, on est déjà à 1h26. Merci à vous deux, encore une fois, de votre temps. Et puis je vais vous laisser à tous les deux le mot de la fin, et on va commencer par Erwan.
Ravi d'avoir pu discuter de plein de choses avec l'équipe OG de Compagnons des DevOps, donc c'est cool, et puis j'espère que ça aura été instructif pour vous. À bientôt.
Ouais, c'était top. Moi, si je peux donner du coup un mot de la fin, je vous dirais d'être gentil avec les mainteneurs et les contributeurs qui aident sur les projets open source. Dans le meilleur des cas, vous allez peut-être juste donner le sourire à quelqu'un qui en a des fois un peu besoin, et peut-être même sauver le monde d'une faille open source qui aura mis à sac tout notre monde.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.